Bonjour à tous, bienvenue dans Stress 14, ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bruit de bottes et de bombes à l'est de l'Ukraine, la tension ne cesse de monter entre ce pays et la Russie, qui aurait selon Kiev désormais près de 150 000 militaires à sa frontière. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dans ce journal, tout près de la région séparatiste russe du Donbass. Une situation qui fait craindre une invasion imminente de l'Ukraine selon les États-Unis. Accusation de plus en plus précise de la part de la Maison-Blanche. Est-ce une nouvelle façon de communiquer pour Washington ? On en parlera avec Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis à l'IFRI, qui sera avec nous. Dans le journal aussi, le chômage en forte baisse, 7,4% selon l'INSEE, du jamais vu depuis 2008. Les jeunes surtout en profitent, de quoi entretenir les revendications salariales, comme dans les transports parisiens, journée noire avec 8 lignes de métro fermées, RER bas, A et B au ralenti, bus et tramway perturbés. La santé d'EDF bénéficie en forte hausse, mais difficultés en vue. L'État va mettre la main au porte-monnaie. Une nouvelle médaille d'or au JO de Pékin, signée Justine Brézaboucher en mastart de biathlon.
C'est juste un moment magique, donc j'en profite de le partager avec mes proches et puis avec la Team France. C'est ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est une belle journée, je vais en profiter.
Et même si Quentin Fillon-Maillet lui échoue au pied du podium aujourd'hui, coup de chapeau à ces biathlètes qui gagnent avec notre envoyé spécial à Pékin à la fin du journal. Et dans la deuxième demi-heure du 13-14, les jeux d'argent en question, ils battent des records depuis le confinement, y compris chez les mineurs pour qui ils sont interdits. Un rapport lance l'alerte, plus d'un jeune sur 10 aurait une pratique de jeu à risque. On en parle avec nos invités. À 13h30, Jean-Michel Coste, chercheur et membre du Collège de l'Autorité Nationale des Jeux qui régule les jeux d'argent en France, et Marilyn Tovar, responsable du pôle innovation expérimentation sur le jeu excessif à la CEDAP. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000. Enfin, ils nous avaient séduits avec leur love letter en 2014. Le groupe Métronomie revient, lettre d'amour de notre journaliste Mathieu Culeron à suivre. Et au chapitre courrier encore, celui de l'Élysée, passé au crible par Jean Lebrun, ça sera le vif de l'histoire, juste avant 14h. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le bruit des bombes encore à l'est de l'Ukraine, vive tension près de la frontière alors que Kiev compte désormais près de 150 000 soldats russes à ses abords. On rejoint tout de suite sur place l'envoyé spécial de France Inter, Thibault Lefèvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Marion.
Vous vous trouvez à Stanistia Luhansk, une ville proche de la région séparatiste russe du Donbass, dans les murs de cette école maternelle récemment frappée par des tirs d'artillerie.
Oui, avec depuis ce matin ces tirs d'artillerie qui continuent au loin. Nous sommes seulement à 5 km de la ligne de front avec des obus qui tombent donc sur la périphérie de cette petite ville de la campagne de Lugansk, séparée de la zone séparatiste par une rivière. Les mêmes obus de 120 mm qui ont touché hier matin l'aire de jeu de cette école maternelle, puis la salle de sport. Il y a désormais un trou dans le mur, les vitres sont brisées et des briques jonchent le sol. Natalia est la directrice par intérim. Elle était présente hier au moment de l'impact.
Il était environ 8h45 du matin. Nous avons entendu une explosion. Et bien sûr, nous tous avons eu très peur. Parce que les enfants étaient là. Ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Nos employés ont tout de suite réagi et nous nous sommes tous réfugiés dans les couloirs au rez-de-chaussée. Nous avons encore très peur.
Vingt enfants et 18 adultes étaient hier à l'école, pas de blessés malgré la violence des bombardements. Selon les observateurs, jamais autant d'obus ne sont tombés sur la ligne de front et ses environs depuis l'été 2018. Et ça continue donc avec ce bruit sourd d'explosion. Nous en avons compté 6 en l'espace d'une demi-heure et un 7e il y a quelques minutes.
Thibault Lefèvre en direct d'Ukraine avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Merci à tous les deux. Une visioconférence doit se tenir aujourd'hui entre le président américain Biden et les dirigeants occidentaux. Le président des États-Unis qui dit voir toujours davantage de forces se déplacer vers la frontière. Accusation de plus en plus précise donc de la part des États-Unis en direction de la Russie qui, elle, continue d'affirmer qu'elle procède au retrait de ses troupes. Pour en parler avec nous, Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis à l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Les Russes sont prêts à entrer en Ukraine, à attaquer l'Ukraine. Ça, ce sont les propos de Joe Biden. C'est assez direct, comme accusation.
Oui, les États-Unis depuis plusieurs semaines sont très alarmistes sur ce qui se passe là-bas. On ne sait pas si c'est un bluff de la part des Russes, effectivement, ou s'ils vont vraiment faire quelque chose. Mais je crois que la raison de cette attitude des États-Unis, c'est que ils ont compris, je pense, que un autocrate comme Poutine ne respecte que les hommes forts. Et comme on sait depuis plusieurs mois que Biden apparaît un peu affaibli, d'abord il est pas très dynamique, il est un peu âgé, le départ d'Afghanistan aussi donne une grande image de faiblesse aux États-Unis, et du coup, dans cette crise ukrainienne, ils ont vraiment à cœur d'apparaître comme extrêmement fermes pour être respectés et pris au sérieux par l'interlocuteur russe.
Alors, Laurence Nardon, le renseignement américain, hein, notamment, présente des accusations qui sont quand même assez précises. Est-ce que c'est nouveau, cette façon de communiquer aussi précisément sur les attaques possibles qui seraient attendues sur place ?
Oui, alors les États-Unis, vous avez raison, disent tout depuis plusieurs semaines. Alors ils indiquent que leurs agences de renseignement montrent qu'il y a des forces russes à tel et tel endroit. Ils ont aussi beaucoup communiqué sur les attaques cyber qui ont été menées par la Russie en début de semaine en Ukraine. Alors oui, c'est pas toujours le cas, mais je pense que, enfin, cette communication vraiment transparente, c'est pas toujours le cas. Je pense que là, ce qu'ils veulent faire, c'est déjà apparaître comme très sincères dans leurs explications. Mmh. Et à l'inverse de ce qui s'était passé, rappelez-vous, en 2003 avec l'histoire des armes de destruction massive en Irak, où ils avaient menti un peu à tout le monde. Donc là, il y a peut-être...
Mais là aussi, à l'époque, ils fournissaient des éléments matériels, en fait. Dans les deux cas, on fournit des éléments matériels, même si en Irak, c'était des éléments falsifiés.
C'est vrai, on peut espérer que ça n'est pas... Enfin, est-ce qu'il faut espérer que ce soit faux aujourd'hui ou vrai ?
Je ne sais pas.
On ne sait plus. Mais ce qui est certain, c'est que ils veulent aussi, dans cette guerre de l'information, ne pas être pris par surprise par les Russes. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du fait que les Russes pourraient susciter un faux incident de frontière, du côté de l'Ukraine évidemment, pour justifier leur invasion. Et du coup, en étant très très détaillés sur ce qu'ils savent, les États-Unis espèrent qu'un incident de frontière comme ça ne pourrait pas être pris au sérieux par la communauté internationale.
Est-ce que d'après vous, le détonateur, ça pourrait être cette école dont parlait notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de France Inter en Ukraine, cette école qui a été bombardée et où on accuse les séparatistes du Donbass notamment, ça pourrait être le déclencheur ?
Là, en l'occurrence, c'est les séparatistes qui ont frappé, donc ça peut pas être un déclencheur impliquant une riposte russe, si vous voulez. On parle d'un faux incident, enfin de quelque chose qui serait causé par les forces pro-ukrainiennes. Mmh. Et à ce moment-là, du coup,
pris comme prétexte par la Russie.
Exactement, c'est ça ce dont les services de renseignement américains parlent à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'on peut attendre, Laurence Nardon, de cette nouvelle conférence du président Biden avec les Occidentaux ce soir ?
Alors, les Occidentaux sont très unis, il semble, sur cette histoire, avec chacun son rôle. Donc, les États-Unis sont très alarmistes. Les Européens, donc on a vu Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, aller rencontrer Biden. Ils sont plus dans la diplomatie et la mise en place de compromis, si on peut encore en trouver. Là aussi, il y a cette histoire de faiblesse et de force, c'est-à-dire que les Européens sont plus peut-être dans la recherche de la main tendue, alors que les Américains restent très fermes pour n'être pas méprisés, pour être respectés par Vladimir Poutine.
Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI, spécialiste des États-Unis, merci de nous avoir répondu sur France Inter. L'actualité en France, c'est du jamais vu depuis 2008. Le taux de chômage a encore baissé au quatrième trimestre pour atteindre 7,4% selon l'INSEE, bien en dessous du niveau d'avant pandémie. Conséquence, dans certains secteurs ou certaines zones géographiques, difficile parfois de trouver des bras. À Mulhouse, par exemple, c'est une première. La caisse d'allocation familiale est obligée de déléguer des dossiers aux Rhinois à des agents de Pamiers, dans l'Ariège. Explication, Patrick Janton.
L'accord a été signé voilà 10 jours entre les deux caisses d'allocation familiale sous l'égide de la Caisse nationale. Il y a 31 000 allocataires en Ariège, beaucoup plus dans le Haut-Rhin, 131 000, et surtout des difficultés de recrutement à Mulhouse. En cause, la concurrence de salaires en Suisse voisine ou l'attrait de plus grandes métropoles. Pour les allocataires, cela ne devrait rien changer. Jean-Jacques Pion, le directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Nous avons un système de gestion électronique de documents qui permet de partager l'information opération avec les collègues qui sont sur Pamiers, donc sur l'Ariège, à plus de 950 km de Mulhouse, et qui viennent travailler sur ces dossiers. Et donc, c'est totalement transparent pour l'allocataire, avec le versement de la prestation et le règlement aussi à distance.
12 agents officieront à plein temps depuis Pamiers pour gérer exclusivement les dossiers orinois les plus classiques, à l'exception de ceux des travailleurs frontaliers. Lucie Vigier, la directrice adjointe de la CAF de l'Ariège.
C'est un point très positif, notamment pour la ville de Pamiers et pour ce plateau qui est positionné en cœur de ville et en quartier prioritaire de la ville et qui offre des opportunités d'emploi intéressantes.
Une délocalisation d'emploi entre l'Alsace et l'Ariège, une alliance durable pour au moins les 10 prochaines années.
Patrick Genton, France Bleu Alsace. La baisse marquée du chômage en fin d'année dernière concerne particulièrement les jeunes, moins 3,6 points. Elle rend de plus en plus crédible la réalisation d'un engagement du candidat Emmanuel Macron. Un taux de chômage à 7% en 2022. Excellente nouvelle, salue la ministre du Travail sur France Inter. Il faut toutefois nuancer ces résultats, tempère Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Si on regarde le nombre de chômeurs supérieurs à 50 ans, on voit que le chômage n'a pas réellement baissé au cours de cette crise, puisque globalement on est peu ou prou au même niveau qu'avant la crise, donc il n'y a pas eu de baisse de ce point de vue-là. Et alors après, sur les jeunes qui sont ni dans l'éducation, ni dans la formation, ni dans l'emploi, là malheureusement, on voit que cette catégorie augmente au cours de cette crise. Donc oui, on a aidé là aujourd'hui, et c'est une bonne chose, les jeunes au sens très large, mais pas les jeunes décrocheurs. À 16 ans, une fois que vous êtes complètement décroché, qu'est-ce que l'on fait pour ces catégories-là? Et là, l'apprentissage n'est pas une réponse. Peut-être qu'il faut prendre le mal à la racine et essayer de mettre en place des politiques éducatives pour justement éviter qu'il y ait aux alentours de 110 à 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans rien du système scolaire.
L'économiste Éric Ayer, joint par Kathleen Comte pour France Inter, il remarque aussi le taux élevé de création d'emplois, plus 300 000 postes supplémentaires par rapport à l'avant-crise sanitaire. Chômage en baisse, plus prix qui grimpe, égale revendication salariale qui se multiplie. Journée noire aujourd'hui dans les transports à Paris. 8 lignes de métro sont fermées, 6 très perturbées, tout comme les lignes A et B du RER et les bus restent aléatoires. L'ensemble des syndicats appellent à cesser le travail pour pousser la direction au-delà des 2,7% d'augmentation proposée. Ancienneté et promotion incluses, une forme de grève réflexe, tense le porte-parole du gouvernement. Selon Gabriel Attal, les directions de la SNCF et de la RATP ont mis des choses sur la table. Elisabeth Borne, ministre du Travail, elle pointe la mauvaise temporalité du mouvement.
Moi, je ne vais pas me substituer à la direction de la RATP qui mène les discussions. Je trouve que cette grève, elle tombe particulièrement mal. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour beaucoup de Franciliens un jour de grand départ en vacances. Donc j'appelle les syndicats à faire preuve de responsabilité. Clairement, ça n'est pas ce qu'on attend d'une grande entreprise de service public comme la RATP.
Est-ce que ça veut dire que le dialogue social a été malmené en amont sur cette question des salaires ?
Moi, je vous dis, on peut avoir des revendications salariales. Faire grève un jour de grand départ en vacances, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Elisabeth Borne, invitée de la matinale de France Inter ce matin, un quart des agents participent au mouvement, selon la direction, des conducteurs surtout. Et pourtant, pas d'embouteillage monstre dans la capitale. Transport alternatif et télétravail réduisent la force du mouvement, analyse Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.
Les grèves à la RATP, comme dans d'autres services publics, permettent aux grévistes de peser sur la direction en disant « Voyez, vos usagers, vos clients, vos voyageurs sont gênés, vous allez perdre de l'argent en termes d'exploitation, donc vous devez nous écouter ». Et de ce fait, le télétravail a considérablement réduit le trafic, des estimations de l'ordre de 1 million de personnes qui n'habitent pas Paris et qui travaillent à Paris chaque jour. Et là, aujourd'hui, nous le sentons, c'est réduit. Tout cela, évidemment, prive les organisations syndicales d'un outil de pression sur la direction.
Bernard Vivier avec Thomas Giraudeau pour France Inter. Prévoyance donc sur les rails en Ile-de-France, vigilance à l'extérieur, dans la rue et en bord de mer. Pour 5 départements du nord et de l'ouest de la France, Manche, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais et Nord, Les rafales de vent de la tempête Eunice atteignent 140 km/h chez nous, 160 outre-Manche. De quoi, disent les services britanniques, arracher des toits, déraciner des arbres et clouer au sol les avions. La circulation des ferries est interrompue entre la France et l'Angleterre. On fait un point complet sur la météo juste avant 13h30 sur Inter. Nordal Lelandais attend le verdict à la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. L'ex-militaire et ex-maître chien est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys à l'été 2017. Le parquet requiert contre lui la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté, sachant que Lelandais purge déjà une peine de 20 ans pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Les jurés délibèrent en ce moment même. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous suivez le procès pour France Inter ce matin. Encore une fois, l'accusé s'est excusé.
Nordal Lelandais, chemise claire, debout dans le box, s'est adressé aux jurés et aux familles des victimes une dernière fois d'une voix calme, monotone. Comme je vous l'ai dit, je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Le meurtre, l'enlèvement de Maëlys donc, mais aussi deux agressions sexuelles sur ses petites cousines de 4 et 6 ans ce même été 2017. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses, mais je dois leur présenter des excuses avec sincérité. Silence, il lâche d'un souffle. Pardon, j'ai entendu les experts sur le long travail que j'ai à faire. Je vais le faire avec une grande détermination. C'est sur ces mots que les jurés se sont retirés. Ils délibèrent depuis près de 4 heures maintenant. Ils doivent répondre à 15 questions pour dire si Nordal Lelandais est coupable, ce qui ne fait pas vraiment débat. Ils doivent surtout décider de sa peine, la perpétuité comme l'a demandé l'accusation, ou moins 30 ans, c'est ce qu'a suggéré son avocat dans sa plaidoirie hier.
Mathilde Vinceneux en direct de la cour d'assises de l'Isère à Grenoble pour France Inter avec les moyens techniques de Thibaut Nassim Ben. On vous retrouve ce soir pour la décision, la fin du procès Lelandais qui sera à suivre aussi sur notre site franceinter.fr. Brigitte Macron attaque en justice deux femmes pour propagation de fausses nouvelles. Elle véhiculait sur Internet l'idée que la première dame était une femme transgenre. Première audience prévue le 15 juin prochain devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils se considéraient comme les oubliés du Ségur de la Santé, oubliés réparés. Donc le Premier ministre l'annonce aujourd'hui, les 140 000 éducateurs et assistants sociaux auront droit à une augmentation salariale de 183 euros net par mois. Ça concerne ceux qui travaillent dans la protection de l'enfance et l'aide aux personnes vulnérables. Augmentation officialisée à la conférence des métiers de l'accompagnement du social et médico-social à Paris aujourd'hui, Anne-Laure Danier.
Le coup de pouce est le même que pour les soignants, 183 euros net par mois versés à compter de juin avec rétroactivité au mois d'avril. Et ça concerne du monde, 140 000 éducateurs spécialisés ou assistants sociaux qui travaillent pour des associations dans le secteur du handicap, de la protection de l'enfance, de l'aide aux personnes vulnérables, les sans-abri, les femmes battues. Des métiers qui n'arrivent plus à recruter, notamment à cause des bas salaires. Un éducateur spécialisé ne gagne que 1 300 euros en début de carrière. 30 000 agents de la fonction publique, des travailleurs sociaux, vont également bénéficier de ce coup de pouce mensuel de 183 euros. Le gouvernement va aussi débloquer 500 millions d'euros pour mettre à plat la grille des salaires de toute cette branche, avec à la clé une hausse globale des salaires.
Au chapitre santé, l'épidémie de coronavirus poursuit son recul chez nous. Le nombre de patients Covid en réanimation baisse encore à 3055. Sur la semaine, on passe sous la barre des 100 000 contaminations par jour en moyenne, grâce entre autres à la progression de la vaccination, un processus très en retard en Afrique, à cause notamment des difficultés d'approvisionnement en injections à ARN messager. Il en était question ce matin lors d'une conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé avec les présidents sud-africains, président du Conseil européen et le président français Emmanuel Macron. Bertrand Galichet, plusieurs pays d'Afrique auront leur propre production de vaccins à ARN.
L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie hébergeront leur propre production de vaccins ARN messagers. Décision annoncée ce matin au sommet Union européenne-Afrique par le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros.
Nous attendons le début des essais cliniques en ce premier trimestre et leur validation en 2024. Mais ce processus peut être accéléré. Nous espérons que le bénéfice de cette initiative ira bien au-delà du Covid-19.
C'est-à-dire par la création d'une plateforme de vaccins contre la malaria, la tuberculose et même le cancer. un investissement stratégique, mais aussi le symbole de la nouvelle relation entre l'Afrique et l'Europe, selon Ursula von der Leyen.
C'est une technologie conçue en Afrique, produite en Afrique et détenue par l'Afrique, avec le soutien de l'Europe.
La question de la propriété intellectuelle ne doit jamais être un rempart à la production de vaccins, ajoute Emmanuel Macron. Bruxelles, Martin Troadec, Bertrand Galichet, France Inter.
Emmanuel Macron à Bruxelles est déjà un peu la tête dans la campagne présidentielle française, bien que le chef d'État ne soit pas encore déclaré. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Marion.
Chef du service politique de France Inter, les troupes de la Macronie se préparent, réunion lundi prochain au QG de campagne du pas encore candidat. Et les partisans d'Emmanuel Macron désignent un nouvel ennemi numéro un, c'est Éric Zemmour.
Oui, on va vers un second tour Macron-Zemmour. C'est un très proche du président qui prend les paris devant des journalistes, autorisé à parler au nom de son supérieur. Oui, dit-il, le chef de l'État envisage désormais un duel avec Éric Zemmour. Il est le seul qui a une dynamique aujourd'hui à droite et à l'extrême droite, dit-on aussi à Matignon. Exit le face-à-face avec Marine Le Pen. La Macronie tente d'installer ce nouveau match. Un affrontement qui conviendrait au président, lui qui aime se poser en rempart aux populistes. L'offensive identitaire d'Éric Zemmour offre un miroir inversé à son propre récit, celui des valeurs républicaines. Ce sera la bataille de deux imaginaires, pas la campagne bienveillante de 2017, promet déjà son entourage. La République qui rassemble droite et gauche contre les réactionnaires, voilà le clivage anticipé. Emmanuel Macron ne laissera pas passer, nous expliquons ce que Zemmour a pu dire sur Pétain ou les prénoms à franciser.
Et du côté d'Éric Zemmour, on valide cette grille de lecture, Yael ?
Va être au deuxième tour, les militants de Reconquête en rêvent. Hein. Cela accélérerait la décomposition-recomposition souhaitée à droite autour de ces idées. Dans leur logique, la page Marine Le Pen, troisième et dernière fois candidate, serait définitivement tournée. Mais tout ça, Marion, c'est de la boule de cristal. Les stratégies sont rarement auto-réalisatrices en politique. À J-50, rien n'est écrit. Et surtout, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Valérie Pécresse, ni Yannick Jadot, ni les autres n'accepteront de se laisser enfermer et asphyxié entre ces deux blocs.
Yael Gauze, chef du service politique de France Inter, merci à vous. Sujet politique également, la santé de l'électricien EDF, détenu à 84% par l'État. L'entreprise présente aujourd'hui pourtant d'excellents résultats, bénéfices nets multipliés par 8 grâce à la hausse des prix de l'énergie à plus de 5 milliards d'euros. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Service économie de France Inter. Pour EDF, l'année 2022 s'annonce pourtant beaucoup plus difficile.
Oui, accumulation de difficultés, on le sait, les prévisions de perte d'exploitation annoncées pour 2022 approcheraient les 20 milliards d'euros cette année au-dessus des projections circulant jusqu'ici. 11 milliards d'euros de pertes estimées pour les difficultés techniques d'EDF, problèmes de corrosion à inspecter, 3 réacteurs à l'arrêt pour contrôler les installations, maintenance prolongée sur une autre partie du parc nucléaire, injonction enfin du gouvernement pour céder encore un peu plus d'électricité à ses concurrents pour alimenter le marché à prix sacrifié. Au final, l'électricien va perdre 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année et sa dette s'élève à 43 milliards d'euros.
Et d'où Laurent l'annonce ce matin d'un plan d'action avec un renflouement de l'État.
Recapitalisation d'EDF, l'État actionnaire va donc mettre 2 milliards d'euros de sa poche. EDF émettra 510 millions de nouvelles actions et en guise de dividendes distribuera des actions. Il va devoir également se séparer et vendre pour 3 milliards d'euros d'actifs après de nombreuses cessions en tout genre ces dernières années. Cette recapitalisation à 2 milliards et demi d'euros reste encore bien faible pour les spécialistes du marché, ne répond pas au mur d'investissement nécessaire pour construire de nouvelles centrales. Le cours d'EDF a encore décroché aujourd'hui, malgré l'annonce de cette recapitalisation ce matin.
Et à propos d'électricité, coupure géante à Lyon la nuit dernière, la ville haute de la Fête des Lumières s'est retrouvée dans le noir pendant plusieurs heures, notamment les 3e et 7e arrondissements. Même les feux rouges étaient éteints. En cause, selon le gestionnaire du réseau, une panne matérielle. Le groupe automobile Renault redémarre. La marque aux losanges revenue dans le vert l'an dernier, bénéfice de 967 millions d'euros, notamment grâce à l'augmentation des prix. L'entreprise envisage de créer deux entités différentes, l'une consacrée au thermique et l'autre à l'électrique. Allez, à toute vitesse, direction les Jeux Olympiques de Pékin, où la France est en passe de réaliser ses ambitions en termes de médailles. On vise 15, on en a 14. Grâce à la breloque dorée de Justine Brézaboucher en mass start féminine de biathlon, vous avez suivi la course pour nous. Bonjour Xavier Monferrand.
Ni hao Marion, bonjour.
De l'or pour le biathlon féminin, mais le biathlète Quentin Fillon-Maillet, lui, échoue au pied du podium. Bref, journée pleine de surprises aujourd'hui.
Bah c'est ça, en fait, pour le biathlon, ces jeux se terminent un peu sur des vents contraires, Marie. On n'entendait pas forcément grand-chose de cette mass start féminine, tant les quatre Françaises semblaient en retrait. Oui, il y avait eu Anaïs Chevalier-Boucher en argent au début des jeux, mais depuis, c'est un peu une accumulation de déceptions. Et puis l'éclaircie donc est venue de Justine Brézat-Boucher, une éclaircie telle qu'elle a touché l'or, sa première médaille, la plus belle, et la 14e pour la France dans ces JO d'hiver. La 15e, elle devait venir juste après, dans la foulée, avec le grand monsieur de ces JO côté français, Quentin Fillon-Maillet, en quête d'une 6e médaille en 6 courses, stratosphérique, inédit pour un sportif français, pour un athlète des JO d'hiver tout court. Mais l'histoire ne se laisse pas compter et le français termine 4e et pour la première fois de ces jeux, eh bien, il regarde donc monter sur les autres sur le podium sans lui.
Xavier Monferrand, on va pas faire la fine bouche, hein. Quand même, c'est le biathlon qui offre à la France le plus de récompenses.
Oui, pas besoin d'avoir fait maths sup, Marion, pour comprendre que sur 14 médailles pour l'instant, 7 venant du tir à la carabine sur ski, le biathlon a rapporté donc la moitié des breloques tricolores dans cette quinzaine pékinoise. C'est le meilleur bilan du biathlon français dans les Jeux d'hiver, certes, mais ça veut surtout dire que tout le reste en rapporte autant. À vous de voir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein.
Allez, à moitié plein, Xavier Monferrand, en direct de Pékin, des Jeux Olympiques de Pékin, avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Merci à tous les deux. Et après la Marseille de notre biathlète, la musique britannique qu'on aime, celle de Métronomie. De retour avec un 7e album, un disque de confinement qui navigue toujours entre pop et musique électronique. Vous l'avez savouré pour nous, Mathieu Culeron.
Pour ce 7e album, Joseph Mundt, le leader de Métronomie, s'est laissé porter par le calme apparent de la pandémie. Il compose un album plus personnel, plus apaisé aussi.
J'ai commencé au printemps 2020 quand les concerts ont été annulés et que j'étais coincé à la maison. C'est là que je me suis dit, bon, je peux commencer à écrire maintenant. Il y a toujours une chanson qui donne une sorte d'identité au disque et Thing Will Be Fine a été le premier des titres que j'ai terminé et ce sera la ligne directrice de cet album.
Teinté d'ironie, le chanteur de Métronomie fait l'apologie d'un petit monde, A Small World, qui donne son nom à l'album. Et le titre I Have Seen Enough a bien failli être chanté en français.
Je trouvais que ça faisait une très bonne chanson française. J'ai donc commencé à écrire en français. Mais mon français n'est pas assez bon. Il y aura tout de même une version française de ce titre.
Small World, le dernier album de Métronomie, nous replonge dans l'univers hybride du groupe entre chansons pop dépouillées et ballades électroniques.
Métronomie en concert le 1er avril à Strasbourg, au Zénith de Lille le 4 avril et au Zénith de Paris le 6. Allez, au chapitre culturel si on peut dire. On ne peut pas terminer ce journal sans vous parler de la question du jour, la fin possible de ça. Plus belle la vie, série culte de France 3 qui pourrait s'arrêter après 17 ans de diffusion, soit 4500 épisodes. Ne faites pas le calcul du temps passé devant votre écran. Le feuilleton tourné à Marseille pourrait donc s'interrompre pour cause d'érosion des audiences. Cela dit, ce n'est pas encore confirmé, mais ça vous ferait quand même un peu plus de temps pour écouter la radio. Dans quelques minutes, les jeux de hasard se portent bien. Gros succès notamment en ligne, y compris chez les mineurs pour qui ils sont interdits. On en parle avec nos invités. Vos questions et témoignages, 01 45 24 7000. Mais d'abord, dans un instant, la météo.
France Inter présente dans la collection de livres pour enfants Oli deux nouveaux titres. Le Petit Chevalier par
Claude Askolovitch.
Une princesse et son valeureux prétendant se marient grâce à un gentil dragon. Et La vie secrète de Doudou Lapin par
Julien Blandras.
Un petit garçon et son doudou n'aiment pas se retrouver l'un sans l'autre. Une histoire et
Oli.
Des contes du soir, imaginés par de grands auteurs, magnifiquement illustrés. Une coédition France Inter, disponible en librairie.
France Inter présente
le nouveau hors-série de L'Obs, l'Algérie coloniale, 1830-1962. L'Obs vous raconte comment la France a occupé l'Algérie pendant 132 ans. La conquête, l'appropriation des terres, le code de l'indigénat, le peuple des pieds noirs, les rêves de l'Empire et finalement le drame de la guerre d'Algérie. Un numéro spécial richement illustré avec des photos rares, des affiches oubliées et des aquarelles inédites du dessinateur Jacques Ferrandez. Le hors-série de L'Obs, l'Algérie coloniale, 1830-1962, à lire en ce moment. Un partenariat France Inter.
Quelle météo pour votre vendredi ?
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Marion.
On en parlait dans le journal, des vents tempétueux soufflent dans le nord-ouest et le nord.
Effectivement, la tempête Eunice va balayer les côtes de la Manche et le nord cet après-midi. Les départements de la Manche, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord sont placés en vigilance orange vent violent, mais aussi vague submersion jusqu'à ce soir. On prévoit jusqu'à 120 km/h sur la baie de Somme, mais aussi à l'intérieur des terres, entre Boulogne-sur-Mer, Abbeville et Lille, 130 à 140 le long de la côte d'Opale, et puis jusqu'à 160 près des caps exposés comme le Grinet et le Blanet. À noter que le vent sera assez fort aussi au nord de la Loire, en Île-de-France et jusque vers la région Grand Est, avec des rafales comprises entre 70 et 90 km/h, localement 100 km/h. En revanche, à votre après-midi sera prétanier autour du golfe du Lion et dans un grand quart sud-est du pays. Puis dans les autres régions, le temps sera nuageux, faiblement pluvieux. Côté température, les maximales, elles sont douces pour la saison, comprises entre 10 et 21 degrés, avec 10 à Brest, 12 à Paris, 17 à Strasbourg, 16 à Bordeaux, 19 à Lyon et Marseille, puis on ira jusqu'à 21 degrés à Grenoble.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, c'est un vieux slogan de la Française des Jeux, mais les chiffres ne sont pas toujours aussi réjouissants. Il y a celui-là, par exemple. Une chance sur 140 millions de gagner à l'euro million. C'est toujours utile de regarder les probabilités. Et puis, une enquête de la Société d'entraide et d'action psychologique sous la houlette de l'autorité régulatrice des Jeux en France l'a montré hier. On compte aussi un joueur sur trois parmi les mineurs et plus d'un jeune sur dix aurait même une pratique des jeux à risque. Le tout dans un secteur en pleine expansion favorisé par cette volonté de fuir peut-être la crise sanitaire. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Coste, chercheur, membre du Collège de l'Autorité Nationale des Jeux qui régule les jeux d'argent en France. Bonjour.
Bonjour.
Et Marilyn Tovar, responsable du pôle innovation et expérimentation sur le jeu excessif à la CEDAP. Bonjour.
Bonjour.
C'est une surprise pour vous de découvrir ces chiffres concernant les jeunes alors que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs aujourd'hui.
Ce n'est pas une surprise parce qu'en 2014, il y avait déjà eu une première étude qui avait été réalisée sur un effectif moindre qui nous montrait déjà qu'il y avait un tiers des jeunes qui étaient concernés par les jeux d'argent et de hasard.
Et comment se fait-il que l'interdiction ne soit pas respectée puisque c'est interdit ?
Alors l'interdiction,
Jean-Michel Coste.
Oui, excusez-moi. C'est l'interdiction de l'offre de jeu et non pas l'interdiction de jouer. Et elle est pas très effective. Mais de toute façon, les mineurs arrivent à contourner sans problème cette interdiction. Mmh. Voilà. Et l'enquête confirme simplement que l'interdiction n'est pas la seule solution pour prévenir les problèmes de jeu d'argent.
Marilyn Tovar, le mécanisme de l'addiction chez les jeunes, il est différent, il est plus fort peut-être ?
Plus fort par rapport aux adultes ?
Oui.
Non, on a entre autres le même schéma, c'est-à-dire que les usages excessifs, les usages modérés sont identiques, sachant que souvent, n'oubliez pas que ces jeunes ont démarré avec leurs parents, donc il y a peut-être
alors
aussi,
ça c'est une vraie question.
Il y a peut-être aussi une copie de ce que les parents font que l'on trouve chez le mineur.
C'est vrai que les parents accompagnent, d'après votre étude, hein, accompagnent les jeunes. On a des chiffres qui montrent qu'ils jouent avec eux en fait.
Tout à fait. L'initiation de jeu se fait à la maison dès un très jeune âge et l'on retrouve donc des jeunes qui après s'autonomisent, qui deviennent, je dirais, qui pratiquent tout seuls au fur et à mesure qu'ils avancent en âge.
70% des parieurs ont moins de 34 ans. Vous dites que ce n'est pas une question de mécanisme d'addiction, alors c'est une question de quoi Jean-Michel Coste, pardon.
Oui, je sais pas.
Je disais 70% des parieurs ont moins de 34 ans. Oui. Si ce n'est pas une question de mécanisme d'addiction, c'est ce que disait Marilyn Tovar, c'est une question de quoi? Comment ça se fait?
Ça témoigne en fait d'une tendance émergente très, très lourde qui est la montée en charge des paris sportifs qui se fait également en population adulte mais aussi chez les mineurs. Et on le voit dans l'enquête, c'est le deuxième jeu pratiqué après les jeux de loterie, grattage et tirage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on regarde la question du jeu problématique, c'est-à-dire les difficultés liées au jeu, la nature du jeu est un facteur absolument prédominant. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de problèmes de jeu avec les jeux de loterie et beaucoup plus avec les paris sportifs. Et une autre tendance émergente aussi, c'est la montée en charge d'Internet, sans doute liée partiellement avec le phénomène de la crise sanitaire. Mais là aussi, c'est préoccupant parce qu'on connaît le facteur de risque, c'est-à-dire le jeu sur Internet a plus de risques que le jeu en point de vente.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que l'accessibilité est beaucoup plus forte. Sur Internet, vous pouvez jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun regard extérieur. Et voilà, donc c'est en partie ce qui explique la dangerosité potentielle de ce support de jeu.
Marilyn Tova, Jean-Michel Coste parlait de jeu problématique. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point avec vous sur qu'est-ce que c'est que le jeu problématique ? Comment on identifie le jeu problématique ?
Il est identifié par rapport à une question qui est un indice canadien qui revient à partir de l'indice canadien du jeu excessif, qui est un indice qui a été créé pour mesurer, repérer les pratiques excessives ou problématiques. Et cet indice, ce sont 9 questions qui sont posées et le résultat qui est calculé donne un score qui permet de savoir si le jeune est dans une pratique récréative ou s'il est passé dans une pratique excessive.
Alors quelques exemples de questions peut-être pour que nos auditeurs sachent s'ils sont ou si leurs enfants sont dans une pratique problématique. Jean-Michel Coste.
On va leur demander si par exemple une question clé sur les problèmes de jeu, c'est demander si après une perte ils vont vouloir rejouer pour récupérer leur perte. Ça c'est par exemple une des 9 questions qui est signe d'un problème. Et sinon, il y a des questions qui tournent autour du ressenti. Évidemment, c'est auto-déclaratif, mais de difficultés relationnelles, de difficultés psychologiques liées à leurs problèmes, à leur pratique de jeu d'argent.
Et c'est ça qui permet de définir le jeu problématique. Julien nous appelle du Jura. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question.
Vous avez donc une question pour nos invités. Allez-y.
Oui, donc moi, j'aimerais savoir si les études montrent une corrélation entre l'augmentation des problèmes et la privatisation de la Française des Jeux et l'ouverture des paris en ligne. Donc est-ce que cette dérégulation est corrélée, il y a une corrélation avec les augmentations.
Merci pour votre question, Julien. Jean-Michel Coste, peut-être. C'est vrai que là, il y a une ouverture à la concurrence des jeux d'argent depuis 2010 et effectivement, vous en parliez tout à l'heure, le développement des paris en ligne.
Oui. Alors, pour ce qui est de la privatisation, de toute façon, elle a été décidée très très récemment, donc aucune étude n'est en mesure de mesurer ce fait. Sur la question du jeu en ligne, évidemment, un élargissement de l'offre va de pair avec une augmentation des problèmes. On sait qu'il y a un lien entre les deux.
Pour compléter, c'est la première étude réalisée en France qui va aussi loin dans, les pratiques, les comportements, les usages. Donc on est sur la toute première étude. Donc il va falloir, refaire un point dans quelques années pour voir un peu cette évolution par rapport à ce comportement.
C'est ça, on n'a pas de base de départ pour faire vraiment...
Là, on est à la base de départ aujourd'hui.
Pour faire vraiment la comparaison, alors les jeux d'argent marchent bien, à la fois les jeux classiques, les paris en ligne, on le disait, il y a les JO en ce moment, en novembre, il y a la Coupe du Monde de football qui devrait bien marcher aussi. La Française des Jeux, et là on voit une évolution, affiche un résultat en hausse de 37,6% par rapport à 2020 l'an dernier. Chiffre d'affaires 2,25 milliards, une hausse espérée de 4 à 5% par an, je m'arrête là avec les chiffres. Comment on explique ce dynamisme, Marilyn Tova ?
Ça va m'être difficile de répondre parce que moi je suis sur l'observation des comportements de mineurs.
Oui.
Donc j'ai aucune possibilité d'analyser les données de la Française des Jeux.
Et sur les comportements des mineurs justement.
Les comportements des mineurs, on voit qu'ils sont
consommateurs aussi.
Ils sont usagers. Oui, ou consommateurs de jeux ou pratiquent des jeux, mais on n'a pas vraiment de lien ou de corrélation avec ce qui se passe à la Française des Jeux.
Jean-Michel Coste.
Oui, vous pourriez compléter vos données par le fait que la progression la plus importante, c'est non pas la Française des Jeux, mais les paris sportifs. Les paris sportifs, sur cette période, ont augmenté encore plus fortement. Alors évidemment, on n'est pas sur la même base de départ, c'est-à-dire que massivement, les Français jouent beaucoup plus aux jeux de la Française des Jeux. Mmh. Donc ça, c'est un constat extrêmement fort. Alors pourquoi ça a augmenté ? C'est vrai que c'est une tendance qui est très longue, qui n'est pas forcément corrélé avec cette période de confinement.
Oui. Ça n'a pas favorisé
Non, alors je pense que indirectement la période de confinement a favorisé le switch qui commence à se produire entre le online, enfin c'est-à-dire le jeu en ligne, le jeu en point de vente traditionnel, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi lié à la grande normalisation des jeux d'argent et à la pression publicitaire aussi qui est extrêmement importante.
On a une question d'ailleurs d'une auditrice alors qui ne veut pas témoigner de vive voix mais qui nous dit « J'en veux à tous ces sites qui font tourner la tête des jeunes et qui n'arrivent pas à prendre du recul, Marilyn Tova. »
Oui, en effet, ils sont très sollicités, que ce soit par dans leur pratique de jeux vidéo, il y a une sollicitation pour les faire basculer dans le jeu d'argent. Dans tous les sites de réseaux sociaux qu'ils consultent, que ce soit Facebook ou tous les autres sites, ils ont une sollicitation. Et même sur leur portable, ils ont régulièrement des sollicitations pour aller jouer. Donc c'est sûr qu'on a, je dirais, une forte pression pour pouvoir les amener au jeu.
Et Jean-Michel Coste, la publicité pour les jeux en ligne, elle est autorisée. Mais ce qui n'est pas autorisé, c'est de viser les mineurs.
Oui, tout à fait. Mais quand vous visez des espaces culturels qui sont dont les mineurs sont très friands, quand vous ciblez des populations très proches des mineurs, c'est-à-dire les 18-25 ans, comme le font pas mal les paris sportifs, et puis surtout quand vous normalisez, comme on le fait, les espoirs d'accès à la réussite sociale que pour les parents, forcément, ça déteint aussi sur les mineurs.
Alors je vous cite le témoignage d'un autre auditeur qui s'appelle Bernard, un ancien buraliste, qui dit que dans sa commune, des jeunes jouaient de grosses sommes pour blanchir l'argent de la drogue. Si vous refusez d'accepter, les jeunes clients vous menacent. C'est-à-dire que la vente est interdite, vous le disiez, aux mineurs, mais c'est pas toujours facile à faire respecter de la part des buralistes.
Oui, alors effectivement, mais il y a quand même une évolution sur le long terme de la Française des Jeux qui passe du ce qu'on appelle d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. C'est-à-dire que maintenant, la Française des Jeux mène ce qu'on appelle des enquêtes mystères auprès des points de vente et elle vient de déclarer tout récemment qu'elle allait passer à un mode de sanction pour les buralistes qui ne respecteraient pas ce principe d'interdiction de l'offre de jeux aux mineurs.
Marilyn Tovar, chez nos voisins, est-ce que vous savez comment on fait pour combattre éventuellement les dérives, notamment chez les mineurs, le jeu dangereux?
Il y a très peu d'études réalisées en Europe, je dirais, sur cette population de jeunes mineurs. Par contre, c'est surtout, je dirais, dans les pays anglo-saxons comme le Canada, l'Australie, l'Angleterre.
Alors que c'est très libéralisé là-bas, voilà. Il y a des échoppes à tous les
coins
de rue.
Donc ils sont déjà, je dirais, plus en avance que nous sur les études, étudier les pratiques des mineurs. Ils sont déjà nettement plus en avance. Donc évidemment, leur loi ou tout ce qui est prévention, soins, accompagnement est beaucoup plus important.
Jean-Michel Coste, on parlait de l'ouverture à la concurrence tout à l'heure. Vous dites qu'il n'y a pas d'effet visible de l'ouverture à la concurrence sur l'addiction. Est-ce que ça rend malgré tout le secteur plus difficile à réguler peut-être aujourd'hui ?
Alors la régulation, je découplerai les deux entre la privatisation et la régulation, puisque ce qui s'est passé en France, c'est qu'à la fois il y a eu privatisation et mise en place d'une nouvelle autorité unique sur les jeux d'argent, l'ANJ, avec des compétences renforcées. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué d'analyser les deux. Mais je crois, pour revenir sur votre question précédente, que ce qui est important dans une politique publique, c'est et peut-être ce qui se fait bien à l'étranger, c'est un meilleur équilibre sur les deux piliers ou les deux jambes d'une politique publique, qui est l'encadrement de l'offre, donc par l'interdiction, mais aussi, ce qu'on n'a pas en France, un meilleur encadrement de la publicité, c'est-à-dire une meilleure limitation. Tous les objets d'addiction, normalement, font l'objet d'encadrement très fort de la publicité. Et la deuxième jambe, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on a construit comme une ligne Maginot, c'est-à-dire une interdiction de vente aux mineurs, mais si les mineurs, comme on le voit, peuvent la contourner très facilement, ces lignes Maginot, il n'y a plus rien derrière. Et ce qu'il faudrait par derrière, c'est une prévention, c'est-à-dire une prévention qui s'attaque, entre guillemets, aux comportements à risque et aux pratiques à risque.
Marilyn Tovar, très rapidement, une question d'une auditrice Delphine qui nous dit 70% des joueurs ont moins de 34 ans. Est-ce qu'on ne peut pas relier ça aussi à la montée de la précarité ?
D'après l'étude et les résultats de l'étude, on se rend compte que les mineurs qui jouent sont ont des parents de niveaux sociaux très élevés. Donc ce n'est pas un problème on pourrait le penser que c'est plus on est en difficulté, plus on va jouer, je dirais, pour se refaire et pour récupérer du budget. Apparemment, non, ce sont des enfants de familles relativement aisées qui jouent.
Marilyn Tovar, Jean-Michel Coste, merci à tous les deux de nous avoir répondu sur France Inter. Il est 13h43.
France Inter, le 13-14.
À suivre sur France Inter, dernier épisode de notre feuilleton au lycée Antonin Artaud de Marseille, dans cette classe de remise à niveau pour bachelier pro, désireux de rejoindre l'enseignement général avec un professeur qui rêve de faire de ses élèves des intellos, vous l'entendrez. Juste après, ce sera le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Monsieur le chroniqueur, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être.
Ça, c'est le courrier qu'on adresse au président de la République. Il y a un service qui est destiné à l'analyse de ce courrier.
Et on en parle juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Au Théâtre du Splendide à Paris, on donne actuellement la pièce britannique Black Comedy, dans les rôles principaux, Arthur Jugnot, Mélanie Page et Virginie Lemoine, qui est à votre micro le temps d'une chanson.
Virginie Lemoine, comédienne et metteuse en scène, qui a choisi de me parler d'un standard de la chanson américaine, Blue Moon, une ballade romantique composée dans les années 30 par Richard Rodgers et Lawrence Hart. Mais c'est une version récente qu'elle a souhaité qu'on entende, celle de Rufus Wainwright avec le groupe Pink Martini.
Cette version, elle me fait complètement voyager, elle me fait partir. Je suis en train de préparer une mise en scène pour le Festival d'Avignon et j'aurais tout envisagé, tout préparé avec cette chanson dans les oreilles. Je l'écoute en boucle.
Vous mettez en scène quel spectacle ?
Alors ça s'appelle « La vie est une fête ». Et c'est 45 ans de l'histoire d'un homme dont on fait la connaissance le jour de sa naissance et conçu pendant 45 ans jusqu'à un événement très particulier de sa vie.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seemed flat as the noonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was the bitter cup full, the saddest of all men. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Cette reprise de Rufus Wainwright est sortie en 2016, Frédéric.
Sur l'album Je dis oui de Pink Martini. Mais Virginie Lemoine ne l'a découverte qu'il y a quelques mois.
Ça doit être l'été dernier et je pense que je devais être en Suisse et j'allais faire tous les matins des petites balades et j'allais me baigner dans le lac, j'écoutais du jazz et parfois votre téléphone vous propose comme ça de découvrir des morceaux et tout d'un coup j'ai entendu Blue Moon chanté par Rufus et il y a eu un déclic.
Qu'est-ce qu'elle est venue toucher chez vous, cette chanson-là ?
Je pense qu'elle a réveillé quelque chose qui se situe entre une espèce de joie de vivre, de pétillance et de tristesse. Il y a une espèce de carrefour d'émotions qui continue dans cette chanson. On est entre les deux. Elle est tristement joyeuse ou joyeusement triste.
Donc vous êtes au bord de l'eau quand vous entendez cette chanson.
Oui. Quand je suis dans l'eau, quand je nage, il y a beaucoup d'idées qui viennent. C'est drôle ça. J'allais beaucoup à la piscine à un moment et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup en nageant. Et quand je vais en Suisse, je vais toujours me baigner. Je me baigne à partir du mois de mars. L'eau est assez froide. Mais le fait de nager dans cette eau très fraîche, assez vigoureuse, il y a quelque chose qui développe l'imagination.
And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore. And when I looked, the moon had turned to gold.
Elle vous met dans quel état, cette chanson-là ?
Elle me calme, elle m'inspire. J'ai l'impression d'être à l'orée de quelque chose. Chantée par Rufus, je trouve qu'elle a une saveur particulière. Cette voix qui est un peu âpre, comme un verre de Bordeaux, et quelque chose qui me touche dans le grain de sa voix, ouais.
Est-ce que vous l'avez vu en concert déjà, Rufus?
Oui, je l'ai vu en concert en Avignon. Il clôturait le festival In. Et c'est un très bel homme, tout ce qu'il exhale est magnifique, c'est un univers magnifique, il respire une humanité incroyable.
Blue Moon par Rufus Wainwright et Pink Martini. C'était donc Frédéric, le choix de Virginie Lemoine.
Actuellement à l'affiche de la pièce Black Comedy, c'est à voir au théâtre du Splendide à Paris.
Bonnes vacances Frédéric, c'est Alina Fanoukoué qui sera dans votre fauteuil la semaine prochaine. 13h49 sur Inter, dernier épisode de votre feuilleton, une semaine dans la vie d'une classe préparatoire à l'enseignement supérieur au lycée Antonin Artaud de Marseille. Structure passerelle qui permet aux élèves de bac pro de se remettre à niveau pour rejoindre l'enseignement supérieur classique. Le cours de philo du jour traite de la vérité et le professeur lui dit la sienne de vérité à Sarah Guibaudot. C'est un bonheur pour Marc Rosmini d'apprendre à ses élèves à travailler sans suivre à la lettre un programme et le prof rêve d'en transformer certains en intello.
On va continuer à travailler normalement, on va continuer le cours tel qu'il était prévu autour de ce sujet, donc le dialogue est-il le chemin de la vérité. On va donc en discuter, on va voir comment on peut utiliser sur ce sujet le film 12 hommes en colère que nous avons visionné la semaine dernière ici même. Notons, tout le monde. Donc, règle de méthode. Règle de méthode, donc, lorsqu'on analyse un sujet, il faut envisager différentes définitions, exactement, définitions possibles des termes. L'idée, c'est effectivement de les aider d'abord à apprendre à travailler. Parce que les conditions d'enseignement en bac professionnel sont pas toujours optimales, même si les professeurs de bac pro font un travail formidable. Mais le public de bac pro est pas forcément un public qui a été choisi pour sa capacité à travailler, etc. Donc les élèves nous disent clairement que quand ils arrivent, par exemple, en CPGE, ils n'ont quasiment jamais travaillé chez eux. Donc nous, c'est leur donner des méthodes de travail, leur permettre de savoir comment on apprend une leçon, etc. C'est chose que parfois ils ne savent pas vraiment. Alors les préjugés, quels sont les préjugés qui sont mis à jour dans ce film?
Le jeune, c'était un jeune de cité. Du coup, ils ont tout de suite dit que, vu qu'il vient de cité, il était violent, enfin, qu'il pouvait être violent.
Tout à fait. Alors, il y a des stéréotypes de classe sociale. Puisque ce jeune vient d'un quartier populaire, c'est probablement un délinquant, un être violent, etc. Un préjugé de classe. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, même
Je crois qu'il n'était pas entièrement américain. Il était un peu latino. Et du coup, je pense... de racisme.
Stéréotype raciste, tout à fait. On voit pas trop quelle est son origine, mais on voit qu'il est sans doute plutôt latino, comme vous dites.
Vous, en tant que prof, est-ce que vous aimez particulièrement enseigner dans cette classe par rapport à d'autres?
Ce sont des élèves qui sont concentrés et avec lesquels le travail est vraiment très plaisant. Enseigner en classe préparatoire à l'enseignement supérieur, c'est à la fois un engagement, parce que c'est vrai que ça peut donner l'idée de ce qu'on pourrait faire de manière plus globale, même si là, ça, c'est une petite niche, mais c'est une niche expérimentale qui montre que ça peut marcher. Et puis, alors, c'est un bonheur pour un prof, puisque les CPES sont des classes sans programme. Alors, c'est paradoxal, c'est vrai que d'un côté, on peut être attaché à l'idée d'un programme national pour les classes de terminale, etc., ce qui donne une égalité au service public. Mais en tant qu'enseignant, et là je parle vraiment en tant qu'enseignant et pas en tant que citoyen, avoir chaque année l'obligation d'inventer un parcours, avoir l'obligation de s'adapter non seulement aux demandes des élèves, parce qu'il y a souvent des cours que je fais, là je vais faire un cours la semaine prochaine sur la liberté d'expression, c'est un cours qui m'a été inspiré par une remarque d'un élève, donc mon cours n'est pas programmé à l'avance comme dans les autres classes. Et puis ce qui est formidable aussi avec cette classe, c'est que je suis à l'affût de toutes les propositions du monde culturel marseillais, des théâtres, des musées, des cinémas, etc. Et donc très très régulièrement, mes élèves peuvent aller voir une exposition ou peuvent animer un débat suite à une pièce de théâtre, puisque certains élèves viennent de milieux qui sont assez éloignés de la culture scolaire. Donc moi, en début d'année, je leur dis, un de mes objectifs, c'est de faire de vous des intellos. Alors ça les fait rire, ça leur fait peut-être un peu peur, et puis ils prennent goût, évidemment. Il y a une règle quand même, quand on est enseignant, qui est rarement prise
à défaut, c'est que quand on sollicite l'intelligence des individus, qu'on leur fait confiance et qu'on s'adresse à eux en tant que sujet pensant, ben ça marche, quoi.
Une semaine dans la classe préparatoire à l'enseignement supérieur du lycée Antonin Artaud de Marseille, feuilleton de Sarah Guibaudot réalisé par Lucie Lemarchand, à retrouver sur notre site franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Jean Lebrun, vous vous intéressez aux boîtes à lettres de l'Élysée. Le président, dit-on, est isolé dans son palais. En même temps, il dispose de quantités de moyens de mesurer l'opinion, à commencer par le service qui gère son courrier.
François Hollande aurait reçu 800 000 lettres au long de son quinquennat. Emmanuel Macron, la seule année 2020, 300 000. Sachez, Marion, que si votre envoi au président pèse moins de 20 grammes, vous bénéficiez de l'affranchissement gratuit. Vous pouvez aussi utiliser le courriel. Évitez seulement, Marion, la carte postale musicale, parce qu'elle déclenche des alertes radar au palais de l'Alma, qu'est Branly, une annexe de l'Élysée, où est traité le courrier depuis les années 1970. On se demande pourquoi, à l'époque, Sarkozy, Guéant, Buisson, la présidence commandait tant de sondages, alors que parvenait déjà cette manne d'informations non filtrées. Fort judicieusement, le service a été depuis réorganisé autour d'un bureau d'analyse. Emmanuel Macron l'a beaucoup utilisé. François Hollande avait même permis à deux chercheurs d'y plonger. Julien Fretel et Michel Auferlé viennent ainsi de publier « Écrire au président », un livre qui, non content d'analyser le courrier d'aujourd'hui, tente des parallèles avec ce qu'il est possible d'entrevoir du service à l'époque de François Mitterrand et de Nicolas Sarkozy.
Et un des intérêts de ces courriers, c'est que les correspondants parlent souvent dans ces lettres de leur expérience personnelle.
Oui, quand on écrit au président, on dit qui on est, on s'expose avec ses qualités et ses faiblesses. L'instrument de mesure, c'est assez généralement la classe moyenne. Si on dit qu'on y appartient, c'est en général pour ajouter « Mais je suis trop pauvre pour être à l'aise, monsieur le président, trop riche pour être aidé. » La représentation de la société est d'ailleurs plus triangulaire que binaire. Le jugement sur les riches est sévère, mais aussi celui sur les plus pauvres, oui. Les assistés, les cassos, qui sont désignés comme au temps de 93, jusque dans les plus petits villages. Une belle lettre qui ne reprenait aucunement ce vocabulaire avait attiré l'attention des agents du service en 2016. Elle était rédigée par une urgentiste de la Timone à Marseille qui voulait seulement raconter à François Hollande la vie d'un service, un village dans un couloir d'hôpital où une équipe de soignants d'opinion hétéroclite réussissait encore à l'époque à rire d'elle-même. Cette jeune médecin avait simplement pensé qu'un président avait côtoyé assez de gens pour comprendre.
Oui, mais les courriers, Jean, prêtent souvent au président une puissance surhumaine.
Telle lui demande d'intervenir auprès du Dalai Lama pour éloigner les bouddhistes qui sont arrivés dans son quartier et qui l'empêchent d'avoir des relations sexuelles. Alors comprenne qui pourra. Oui. Tel autre attend que l'Élysée achète l'appartement au-dessus afin de ne plus entendre de voisins. En fait, on aimerait pouvoir distinguer les lettres de requête à diriger vers des services compétents des lettres qui expriment des opinions et qui, combinées à d'autres sources, peuvent fournir à l'Élysée des données, mieux, des véritables data. Ouais, mais le réel est insaisissable. Voici une lettre, par exemple. Monsieur le Président, je vous écris ce message pour vous dire que je suis très déçu par ce que je vois et j'entends. Toutes ces fraudes fiscales, tous ces VIP qui doivent de l'argent, mais ont des super avocats. Moi, j'ai 52 ans, mère de deux enfants, je suis en surendettement. Pouvez-vous effacer ma dette ? Je vous écris ce message sans espoir, mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Cordialement. Ce courrier, est-ce que c'est une lettre de requête ou bien l'expression d'une opinion ? Les courriers de requête sont aussi des signaux faibles de l'opinion, ou plutôt des signaux émanant des voix faibles dans l'opinion.
La lettre que vous citiez à l'instant, Jean, se termine par cordialement. Il faut bien constater que les formules respectueuses ont tendance à reculer quand on s'adresse au chef de l'État.
Ben, on commence souvent à la Boris Vian, comme vous tout à l'heure. Vous y allez ?
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être,
si vous avez le temps. Et il arrive qu'on finisse par un « je vous salue modérément ». Pensez pas, sale flan, gros enculé, souviens-toi de Louis XVI. J'invite cependant à ne pas tirer de quelques injures des conclusions hâtives. En 62, et il y a 60 ans, au moment du dénouement de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle recevait beaucoup de messages du même tonneau, et en plus ses ennemis mettaient même le feu à la poudre du tonneau.
Merci Jean pour cette chronique qui s'appuyait sur le livre de Julien Fretel et Michel Auferlé, Écrire au président, enquête sur un guichet de l'Élysée aux éditions de La Découverte. Jean, les auditeurs vous retrouvent demain au programme d'Intelligence Service.
Kafka.
À demain.
Et dans quelques minutes sur France Inter, La Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
On se lâche chez vous Marion.
Mais oui, on chante. C'est vendredi, c'est le club, on va se lâcher aussi ou
absolument.
Pas
absolument, on va parler d'arbres entre autres et d'Alice au pays des sciences.
Et à tout de suite, on reste à l'écoute. Quelques secondes encore pour dire un grand merci à toute l'équipe du 13-14. Sarah Guibaudot à la rédaction en chef, Claire-Sophie Collet, attachée de production. Pour la rédaction en chef du journal, merci à Estelle Schmitt, Anne Patinec, assistée de Nicolas Sabat, Sylvain Lesage, Carline Desrosiers et Brice Garcia. Merci pour leur doigt de fée à Fabrice Desmaz et Philippe Duclos derrière la console. Au standard, Camille Devar, Margot Millot, Siwen Lamara, Dylan Gauthier, Yaël Ba. Lundi, vous retrouverez avec plaisir Bruno Duvic à son micro pour le 13-14. Quant à moi, je m'éclipse pour quelques mois et je vous retrouve l'été prochain sur France Inter.